côtés, Idrissa Seydoudia, journaliste de VOA Afrique. À l'annonce des résultats, le président Trump affirme qu'il s'agit d'une grande victoire pour les républicains. Brett Bruen, êtes-vous de cet avis?
Pas du tout. En fait, on peut dire que c'est une victoire partielle pour le président, mais en même temps, c'est un grand problème. Parce que maintenant, il aura besoin de travailler avec un congrès divisé, un congrès dans lequel les démocrates vont contrôler surtout le budget et aussi ils vont avoir le pouvoir de surveiller, aussi appeler pour témoigner les leaders de son administration.
Alors j'entends Zomba, hein, les républicains ont perdu leur majorité à la Chambre des représentants. Pour autant, est-ce qu'on peut parler de vague démocrate comme l'opposition l'avait annoncé?
Ben non, on parlerait plutôt de vague rose. On dirait qu'il y a 20 mois, les femmes ont débarqué sur Washington avec des bonnets roses pour protester contre la politique de M. Trump, généralement à l'endroit des femmes. Et on peut regarder également au niveau de la nouvelle composition au niveau du Congrès, 15 femmes en plus, des femmes ici de confession religieuse qui n'avaient jamais été au Congrès, une Amérindienne, une Somalienne, des choix de style, elle aime les femmes comme elle, et je pense qu'on parlerait plutôt de vague rose.
Pour vous, c'est ce qui a fait la différence sur ce vote?
Bon, je pense qu'il y a ça, mais il y a également la Chambre des représentants et la Chambre basse du Parlement. Elle représente généralement le peuple. Donc le peuple a fait son référendum, et je pense que les prochaines deux années qui restent à M. Trump seront des années très intéressantes.
Alors Idrissa Seydoudia, comment expliquer ces résultats? Pourquoi les républicains ont perdu des sièges à la Chambre?
Il y a deux explications qu'on peut donner. D'abord, le choix des candidats que les démocrates ont choisi cette fois-ci. Ce n'étaient pas les candidats traditionnels. On a vu beaucoup de femmes et beaucoup de candidats qui venaient de différents horizons. Ce n'étaient pas les professionnels, les politiciens professionnels. C'était très important à ce niveau. Et ensuite, le message. Ils ont tiré, je crois, la leçon de 2016, parce que Hillary Clinton passait tout son temps à attaquer Donald Trump. Tout le monde connaît Donald Trump. On n'a plus besoin de leur dire qui est Donald Trump. Alors, ils ont préféré plutôt se concentrer sur le message, à savoir ce qu'on veut faire pour aider le peuple américain. Et ils ont choisi le thème de la santé particulièrement. Et on a vu une situation assez cocasse, des républicains qui demandaient que l'on se débarrasse de l'Obamacare, qui tout d'un coup se disait partisan de l'Obamacare. C'était quelque chose d'ahurissant, mais ça montrait que le message passait.
Alors, voyons maintenant ce qu'en pensent nos Facebookers. Hassan Omar de Djibouti dit la chose suivante: ces élections de mi-mandat sont cruciales pour le président Trump et vont refléter sa popularité et l'impact de sa politique sur les citoyens américains. Et on a également Alphonse Boaki de Kinshasa. Donald Trump a créé des emplois, a renfloué l'économie américaine et cette prouesse peut jouer sur l'électorat. Alors, Jean-Claude Nzamba, hein, le président revendique un bilan positif. Cet argument a-t-il convaincu les Américains?
Non. Il faut dire que lorsque l'on arrive à remplir les besoins basiques d'une population, cette population veut aller à un autre niveau de besoin. Aujourd'hui, je pense que la rhétorique du président américain est une rhétorique qui, quelque part, a été comme un référendum. Les gens disant oui, l'économie super, on vous a élu pour faire un travail, vous l'avez fait en partie, mais il y a certaines choses que nous aimerions que vous travailliez sur. On parle toujours de l'immigration, on parle toujours de la santé, on parle également de certaines réformes, surtout au niveau de la fiscalité. On parle également du commerce extérieur, ce qui se passe avec la Chine. Beaucoup suivent ça de très près parce qu'il y a des retombées, surtout au niveau agricole, des Américains. Donc, dans les campagnes, les personnes qui travaillent dans le domaine agribusiness souffrent en fait de toutes ces sanctions de part et d'autre qui s'en suivent entre ce trade war, comme on dit, entre les États-Unis et la Chine.
Ok. Alors, on va retourner un peu vers Brett Bruen. Hein. On va vous sonder. Que pensez-vous de ces résultats? Comment les expliquer?
le plus important pour les téléspectateurs à considérer, c'est que je sais bien la complexité de notre système politique, mais nous avons le cas de la Chambre des représentants. C'est la seule élection nationale. Dans le cas du Sénat, il y en a une trentaine des États qui ont eu des élections pour leurs sénateurs à cause du fait que pour le Sénat, les mandats sont 600. Alors, dans le cas des 435 sièges dans la Chambre des représentants, les démocrates ont gagné au moins un avantage de 30 sièges. Et c'est vraiment, si vous voulez, un sondage national. Et pour le président, c'est un problème assez important pour sa réélection.
Alors, Brett Bruen, je reste avec vous. Hein. La participation a été très forte pour des élections de mi-mandat. Pourquoi est-ce que les Américains ont voté plus que d'habitude?
En fait, on a vu d'énergie aux deux côtés. Les démocrates se sont mobilisés, surtout les femmes, les minorités. On a vu peut-être 20% plus en termes de participation. Mais aussi, Donald Trump a eu de succès avec ses messages à sa base pour leur participation aussi. Alors, nous sommes vraiment dans un environnement de participation. Aussi, on peut dire des polémiques, mais pour la démocratie, c'est une bonne chose.
Alors, Idrissa Sedouzia, je vais rebondir quand même sur un commentaire de nos Facebookers. Hein. On avait Hassan Omar qui disait que ces élections, finalement, reflètent la popularité de Donald Trump. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ben, je n'irai pas jusque-là parce que en fait, il y en a beaucoup qui disent que pourquoi il y a eu tant de mobilisation, c'est à cause du style et de la personnalité de Donald Trump. Sa base a toujours approuvé ce qu'il faisait, quoi qu'on dise. Et lui-même, en fait, quand il faisait sa campagne, il ne parlait pas de l'économie, il ne parlait pas des progrès qui ont été réalisés depuis ces deux ans. Bon, d'autres diront qu'en réalité, tout a été préparé par Obama depuis plus de six ans, depuis la dernière grande récession qu'on a connue dans le pays, et qu'en réalité, il était en train d'engranger ses résultats. Il a fait des choses, mais il n'a pas mis l'accent sur l'économie. Lui-même, il disait que c'était ennuyeux. Et qu'il fallait parler de choses telles que l'immigration. On a vu cette affaire avec la caravane. Et c'est le genre de truc qui enflammait en quelque sorte sa base.
Et quand même, hein, à la décharge de Donald Trump, hein, il n'est pas rare que les présidents soient sanctionnés à l'occasion de ces midterms.
Ça s'est toujours passé comme ça, hein, à midterm, mais ça ne permet pas au président de rebondir, pour utiliser votre expression, lors des prochaines élections. Rien ne dit qu'il sera sanctionné dans deux ans. On a vu avec Obama, on a vu avec Clinton qu'ils avaient perdu les élections de mi-mandat et ils ont été réélus.
Alors, la participation donc a été très forte. On marque une courte pause. Washington Forum revient tout de suite. Bon, bah, écoutez, je pense que... De retour avec vous, Morgane Guiriec. Gros plan sur les élections de mi-mandat et les conséquences sur la présidence de Donald Trump. On va voir un petit peu quelle est la réaction des Américains à l'annonce des résultats. Trésor Matondo a baladé son micro dans les rues de la capitale des États-Unis.
J'ai été déçu que les démocrates n'aient pas fait mieux, mais heureux de voir qu'ils ont pris le contrôle de la Chambre basse.
À ce stade, je ne suis sûr de rien, mais j'espère qu'une certaine civilité pourra être introduite dans la politique. Je ne retiens pas mon souffle, mais j'espère que les choses pourront devenir plus civiles.
Il faut surtout aider tous les Américains et aussi cette caravane qui arrive. Il faut aider ces gens parce qu'ils ne font pas ce voyage juste parce qu'ils ont de bons moments chez eux. Il faut aider ces gens.
Il faut faire quelque chose à propos de toutes les personnes qui sont tuées par toutes ces armes qui circulent.
Monsieur Trump va réussir, j'en suis sûr. C'est le leader le plus fort que j'ai jamais vu au monde. C'est le leader le plus fort que j'ai jamais vu aux États-Unis depuis que je suis ici. Je suis sûr qu'il pourra apporter une solution pour cette soi-disant caravane. Il devrait chercher à venir légalement, obtenir un passeport, chercher le visa et venir comme nous sommes tous venus. En second lieu, nous avons besoin du mur pour renforcer la sécurité du pays. Troisièmement, nous souhaitons une solution pour l'Iran car ils sont les plus dangereux au monde. Nous voulons apporter la paix dans le monde entier.
Élection donc sur les midterms ici aux États-Unis. Hein. Pour en parler, Brett Bruen, président du Global Situation Room. Et sur ce plateau, avec moi, Jean-Claude Nzamba, analyste politique, et Idrissa Seydoudia, qui est journaliste avec nous à VOA Afrique. Les deux prochaines années de Donald Trump à la Maison-Blanche pourraient être mouvementées. Les Américains ont en effet élu un congrès divisé avec des républicains qui renforcent leur contrôle du Sénat alors que la Chambre des représentants tombe dans l'escarcelle des démocrates. Qu'est-ce que cela signifie pour la suite du mandat du président Trump? Élément de réponse avec Abdourahmane Dia.
You know, I think that blue wave is being rapidly shattered.
La vague bleue tant annoncée n'a pas eu lieu. Et le président Trump crie même victoire dès le lendemain matin. D'abord avec un tweet matinal, puis en conférence de presse. Trump se montre satisfait tout en reconnaissant la nécessité de travailler avec les démocrates sans qui aucune loi ne peut être adoptée au Congrès à partir de janvier.
J'espère qu'on pourra tous travailler ensemble pour continuer à faire des résultats pour le peuple américain, y compris dans l'économie, les infrastructures, le commerce, la baisse des prix des médicaments. Ce sont des choses sur lesquelles les démocrates veulent travailler avec nous. Je pense qu'on peut le faire et nous avons beaucoup de raisons de le faire.
Le président américain est donc conscient que la suite de son mandat pourrait ne pas être de tout repos. Nancy Pelosi, la patronne des démocrates à la Chambre, donne déjà le ton.
Ce sera une victoire pour notre pays, pour restaurer le contrôle et l'équilibre dans notre Constitution, honorer la vision de nos pères fondateurs, le sacrifice de nos hommes et femmes en uniforme et les aspirations de nos enfants. Nous avons vu les républicains à Washington travailler sans relâche pour distraire, diviser et cacher tout pour nous détourner de l'arnaque fiscale en faveur des riches et leur campagne cruelle visant à arracher aux Américains leur assurance maladie.
Le président Trump pourra certes continuer à nommer par exemple des juges grâce au Sénat sous le contrôle républicain, mais les démocrates pourraient ouvrir leurs propres enquêtes à la Chambre sur les finances et les impôts du président. Ils pourraient aussi bloquer le financement de ses projets phares comme la construction d'un mur à la frontière mexicaine, la réforme de l'immigration ou encore les accords commerciaux. Il devra donc composer avec les démocrates pour éviter des batailles judiciaires interminables et le blocage dans le vote des lois qui requièrent l'approbation des deux chambres du Congrès. L'appel téléphonique du président à Nancy Pelosi pour la féliciter est peut-être un signe que le compromis est inévitable, même si les deux parties ont déjà en vue les élections de 2020.
Idrissa Seydoudia, les démocrates reprennent donc la main sur la Chambre des représentants. De quel pouvoir disposent-ils désormais?
Un pouvoir de contrepoids. C'est tout. À ce niveau, bon, le président devra négocier avec eux s'il va arriver à des résultats. Sinon, ce sera l'impasse. Mais il a dit qu'il va essayer de négocier et on sait que le président n'est pas un politicien comme tous les autres. Le président Donald Trump, déjà au début de son mandat, il avait essayé de flirter avec le leader de la minorité démocrate au Sénat et avec Nancy Pelosi dont on entend parler. Alors, il avait essayé de flirter avec eux, ça n'a pas marché, et c'était aux grandes dames des leaders républicains qu'il ignorait totalement. Donc, ce qui compte pour lui, c'est la victoire. Alors, s'il peut avoir une victoire, une grande victoire, avec ces deux leaders, il n'hésitera pas à le faire.
Jean-Claude Zambahin, est-ce qu'on s'achemine vers un blocage des institutions ?
Il est très possible qu'il y ait blocage, en entendant ce qu'a dit Nancy Pelosi, en entendant ce qu'a dit le président Trump. Il y aura des moments de blocage. Mais il faut savoir également que souvent, pendant des moments de blocage, il y a des personnes qui profitent. C'est-à-dire que maintenant que les démocrates ont pris le Parlement, la Chambre des représentants, à l'élection présidentielle de 2020, M. Trump pourra dire, vous voyez ce que les démocrates ont fait, ils n'ont pas permis que certaines choses se fassent. Donc quelque part également, les démocrates, ils auront à répondre. Ce n'est pas juste faire du blocage, mais c'est d'être une force de proposition et de montrer qu'ils sont au travail.
Brett Bruen, qu'en dites-vous? Est-ce qu'on va vers un blocage?
Probablement, oui. Le problème pour les démocrates et pour le président, c'est que dans moins de 2 ans, on va aller encore au scrutin. Et aussi, il faut prendre en compte qu'ici aux États-Unis, les campagnes présidentielles commencent maintenant. C'est-à-dire les candidats qui se présentent, surtout aux côtés démocrates, vont être dans les premiers états dans les prochains jours, et on va commencer à voir les messages de ces candidats qui aussi auront d'importance pour la politique, pour les décisions de la Chambre des représentants qui vont essayer de aider leurs candidats.
Et quels sont les domaines sur lesquels la Chambre des représentants, dominée donc par les démocrates, pourrait faire blocage?
La première chose, c'est le budget, parce que selon notre loi, les budgets commencent dans la Chambre des représentants. C'est-à-dire que sans l'appui, sans l'approbation des démocrates, Trump ne va pas avoir d'argent. Alors, il faut avoir une compromise, mais en même temps, on en a vu des cas dans les 2 années récentes, quand Trump a pris des décisions en contre de sa propre parti qui contrôlait le Congrès. Alors, la probabilité d'avoir un blocage dans la Chambre des représentants à cause du budget, c'est assez élevé.
Et est-ce que vous pensez qu'il fera des compromis?
Il y en a toujours une possibilité, mais si on considère les premières années de son mandat, il n'y a pas vraiment beaucoup de cas dans lesquels le président a trouvé un compromis, même avec sa propre partie.
Alors, Idrissa Seydoudian, les démocrates, on l'a évoqué, ont reproché aux républicains de faire blocage à la politique d'Obama. Est-ce que maintenant, ils vont se prêter au même jeu?
Je ne pense pas. Je pense que ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de proposer quelque chose de concret, parce que c'est le seul moyen pour eux d'être, comme ils disent, je n'arrive pas à trouver le mot, mais de pouvoir jouer un rôle positif en politique américaine, parce qu'il ne suffit pas tout simplement de s'opposer, de faire de l'obstructionnisme en quelque sorte. Il faut qu'ils proposent quelque chose de concret pour pouvoir bénéficier et jouir de la confiance du peuple américain.
Jean-Claude Zamba, quelle implication concernant la politique étrangère? C'est une question que nos téléspectateurs se posent beaucoup.
Bon, en matière de politique étrangère, vous savez qu'au niveau déjà du Sénat, la nomination des ambassadeurs est faite par le Sénat. Donc, quelque part, M. Trump avait l'obligation de s'assurer au minimum de maintenir le Sénat. Je pense qu'au niveau de l'Iran, M. Trump ne va pas complètement se désengager. Au niveau de ce qu'il fait avec le Moyen-Orient, la Chine ne va pas se désengager. Il n'y aura pas vraiment tant de changements en tant que ça. Je pense que si les téléspectateurs, par exemple, dans certains pays, espèrent qu'il y ait quelque chose de meilleur, je ne pense vraiment pas. Je pense qu'aujourd'hui, avec la fin des élections de mi-mandat, l'Amérique se prépare pour l'élection de 2020. Et lorsque l'Amérique se prépare pour une élection, l'Amérique se focalise sur elle-même.
Alors, Brett Bruen, il y a aussi des enjeux personnels pour le président. Quels sont les points sur lesquels les démocrates pourraient attaquer le président ?
Il y en a plusieurs, surtout le cas de la Russie, la collaboration que le procureur Mueller est en train d'investiguer. On va voir si dans les prochains mois, peut-être les démocrates qui auront des comités sur lesquels ils peuvent faire des investigations, s'ils vont trouver quelque chose, soit au niveau de sa coopération avec la Russie pendant l'ancienne campagne, soit dans le gouvernement, parce qu'il y en a beaucoup d'accusations contre le gouvernement pour violer certaines lois. Alors, vraiment, c'est une trésor pour les démocrates et ils vont attaquer assez agressivement.
Et concernant une possible procédure de destitution?
Aussi, et je ne sais pas si vos téléspectateurs sont au courant, mais hier, en fait, le président a pris la décision d'enlever son ministre de justice et il a mis sur sa place, au moins pour le moment, un politicien, quelqu'un qui pourrait être vu comme un partisan de Trump et non nécessaire. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va continuer l'investigation de M. Mueller.
Idrissa Sezouzi, une réaction?
Oui, pour ce qui est de l'impeachment ou de la destitution du président, je ne pense pas que les démocrates vont essayer de le faire parce que ça ne servirait à absolument rien. Il faut une majorité des deux tiers au Sénat, et le Sénat est toujours sous contrôle démocrate, républicain, je veux dire. Donc, ils vont pas perdre leur temps avec ça, et ils ont déjà fait comprendre que ce n'était pas là qu'ils voulaient aller.
Alors, le président Trump entend se représenter en 2020. Est-ce que les résultats de ces mid-terms peuvent servir de présage à la prochaine présidentielle ?
Comme on a eu l'occasion de le dire avant, ça n'avait pas empêché Bill Clinton de gagner sa réélection. La même chose pour Obama. En réalité, peut-être qu'on accorde un peu trop d'importance à ces mi-termes, pour ce qui est en tout cas... Deux ans, c'est long en politique. Beaucoup de choses peuvent se passer dans les deux prochaines années. Donc, je crois que ce serait prématuré de dire s'il va gagner ou perdre. Tout dépendra de ce qui va se passer bientôt.
Jean-Claude Nzamba, quel pourrait être l'impact de des possibles blocages sur ces présidentielles ?
Bon, les blocages soit vont mettre en meilleure position les démocrates, soit les républicains. Ce qui est clair, c'est que M. Trump va profiter de toute situation possible que les démocrates vont lui donner pour montrer à quel point les démocrates ne sont pas organisés. Et la même chose de l'autre côté. Je pense que l'essentiel pour l'Amérique, ce serait de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut apporter à cette population qui désire quelque part une meilleure économie, comme ils l'ont maintenant, mais également un environnement sain. Je pense qu'on a entendu hier, pendant la déclaration de M. Trump, une personne qui a dit « Monsieur le Président, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous faisons, il est de votre devoir de nous protéger. Notre sécurité est entre votre main et vous avez juré sur la Constitution de nous protéger. » Donc je pense que ces blocages, il faudrait être assez stratégique parce que sinon les démocrates risquent de perdre la face, étant donné qu'aujourd'hui on ne sait pas vraiment quel candidat ils vont présenter en 2020. Donc ils devraient faire très attention pour qu'on ne les regarde pas comme des revanchards.
Eh bien écoutez, ce seront les mots de la fin. Brett Bruen, Jean-Claude Nzamba, Idrissa Sezouzi, merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui ont suivi, à l'équipe qui a travaillé sur l'émission. Au revoir.